Bon, mais ça, la réponse est évolutive. Hein. Tu vois, si tu m'avais posé la question il y a 3 ans en arrière, je t'aurais répondu complètement différemment que ce que je vais te répondre aujourd'hui. Peut-être que si tu me reposes la question dans 3 ans, la réponse sera différente. Mais parlons au temps présent. Actuellement, ma vie gravite autour de la course à pied dans le sens où, oui, je suis athlète professionnel en tant que coureur d'ultra-trail. Mais pas que. Voilà, je veux bien mettre l'accent là-dessus. Aujourd'hui, j'ai aussi des activités, disons, un peu plus professionnelles, classiques et intellectuelles qui gravitent dans le monde de la course à pied, mais qui ne demandent pas à mes jambes de courir pour pouvoir réaliser ces activités-là. Je pense au fait que je suis directeur commercial de l'entreprise qui s'appelle La Clinique du Coureur. Qui m'occupe quand même une grande partie de ma vie. Et je suis aussi coach en course à pied et qui me prend aussi beaucoup d'heures chaque semaine. Donc voilà, après, je dis que la course à pied est un mode de vie pour moi parce que je lis course à pied, je regarde des vidéos course à pied, j'apprends course à pied. Je vais parfois, plus maintenant, mais j'allais au travail en courant, je me déplace pour aller. Faire mes petites épiceries pour balader en courant. Donc voilà, toute ma vie gravite autour de cette activité-là actuellement. Donc c'est ça. Voilà. Mais il y a 3 ans en arrière, je t'aurais dit, je suis ingénieur
Ouais.
principalement. Et puis à côté de l'ingénierie, je fais un peu de course à pied et ça me plaît bien. Voilà. Et
Ouais.
peut-être que dans 5 ans, je te dirai, je suis navigateur des océans. Voilà.
Alors, c'est une question que j'aime bien poser parce que j'aime bien, je trouve que ça reflète pas mal l'état d'esprit de la personne, de lui demander comment elle aime se présenter, qu'est-ce qu'elle aime mettre en avant. Tu vois, moi, quand on me demande, je dis. Je suis quelqu'un qui cherche un maximum de plaisir dans la vie. Donc, tu vois, je
Ok.
préfère me présenter là-dessus que forcément commencer par la profession, tu vois.
Ben moi, voilà, tu. En fait, moi, la question qu'on me demande, c'est quoi ton métier? C'est une question qui est hyper difficile pour moi
Ouais.
parce que, en fait, la personne qui va te poser la question, il faut savoir dans sa tête, c'est quoi la définition de métier? Souvent, la définition de métier, c'est dans le commun des mortels, c'est une activité qui va te donner une rémunération. Donc, je réponds de manière très basique quelles sont les activités qui me rémunèrent actuellement. Mais il y a d'autres personnes qui ont une définition de métier qui est la mienne aussi, qui n'est pas forcément une activité liée à la rémunération. Tu vois, un métier, c'est plus pour moi une activité que tu pratiques, qui te prend le plus d'heures dans une semaine, qui te passionne, à laquelle tu te dédies. Mais voilà, qui n'est pas forcément lié à une rémunération. Donc, c'est pour ça que moi, je réponds aujourd'hui que mix des deux aujourd'hui, ma vie, c'est la course à pied. Voilà. Mais ça gravite autour de l'activité de course à pied, mais je ne fais pas que courir. Voilà.
Ouais. J'ai vu dans quelques articles, tu disais que tu avais vécu en Guadeloupe quand tu étais plus jeune et que tu avais pratiqué la plongée et tu disais que ça t'aidait pour le trail. Moi, je voulais savoir si tu pratiquais encore et si oui, comment est-ce que tu peux nous parler de ça et comment ça
Oui, bien
t'aide pour le
sûr.
trail?
Bien sûr. Donc, j'ai grandi, c'était les 3 premières années de ma vie, hein, donc ça remonte à il y a 30 ans en arrière, j'ai 33 aujourd'hui, donc il y a pile 30 ans, je commençais ma vie en Guadeloupe. Moi, c'est l'activité principale que j'ai faite dans ma vie, et je pense que même à aujourd'hui, avec mes 6 ou 7 ans d'historique de course à pied, je pense que j'ai encore plus d'heures de plongée que de course à pied dans ma vie. Je suis devenu moniteur de plongée à l'âge de 19 ans, je crois, 19 ou 20 ans. Donc, il y a déjà plus de 10 ans. Et j'ai exercé le métier de moniteur de plongée pendant plusieurs mois, surtout en Corse et en mer Rouge. Bon, après, la vie a fait que je me suis retrouvé dans d'autres aventures professionnelles. Mais ouais, aujourd'hui, je pratique toujours la plongée sous-marine, mais disons sur opportunité. Dès que je vais avoir une course qui va être proche de la mer ou de l'océan, naturellement, je vais m'organiser pour aller faire pas mal de plongées sous-marines autour de l'événement. Tu vois, par exemple, cette année, je suis parti où ma première destination course était les Canaries, la Transgrande Canaria en février. Bon, ben, juste après la course, je suis allé plonger. Après, en mai, je suis allé en Polynésie française, à Tahiti. Bon, ben, après la course, pendant 2 semaines, je suis allé faire le tour des atolls pour aller plonger partout. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne l'enseigne plus la plongée en tant que moniteur de plongée, mais j'en profite. Et je pense que ce que tu fais référence, je ne sais pas où peut-être tu as lu ça, il faut en avoir parlé, mais oui, tu peux, en plongée sous-marine, tu apprends beaucoup à avoir un contrôle conscient de ta respiration. Tu vois, c'est pas comme, car là, on est en train de se parler, ben, on respire sans vraiment en avoir conscience, parce que c'est comme quand tu dors, quoi. C'est quelque chose qui est totalement inconscient et qui est contrôlé par ton système nerveux. Sans que tu le contrôles, mais en plongée sous-marine, voilà, pour il y a certaines conditions, mettons que tu vas vouloir ben, économiser un petit peu ton air, ou parce que tu vas être à une profondeur telle que ta consommation d'air monte exponentiellement, ben, tu vas prendre contrôle sur ta respiration et tu apprends en plongée sous-marine à rester loin de ce qu'on appelle le cycle de l'essoufflement, qui est un cycle. Un cercle vicieux qui est en fait l'idée que tu t'intoxiques avec ton CO2, c'est-à-dire que tu expires moins de CO2 que ce que ton corps en produit. Et donc, pour ça, il y a des techniques, c'est-à-dire de faire des expirations profondes, donc vider complètement ses poumons, et faire des expirations, des inspirations complètes, donc remplir complet ses poumons. Et ça, ben, aucun coureur ne le fait parce que souvent, ben, même quand on court, ben, on respire, on inspire, on expire de manière inconsciente. Mais moi, souvent, souvent, quand je cours, je prends le contrôle sur ma respiration et je fais justement ces exercices. Et ces techniques d'inspiration-expiration que j'ai appris dans la plongée sous-marine. Donc, c'est sûr que ça aide énormément parce que quand on court, le moteur, les 2 paramètres de notre moteur, c'est le cœur et les poumons, hein, c'est l'air et la force de ton cœur à gérer les volumes sanguins aux 4 coins de ton corps. Et donc, ça, ouais, je l'utilise beaucoup. Je l'ai appris de manière assez innée lorsque j'étais bébé et aujourd'hui, j'utilise encore aujourd'hui. Après, j'ai aussi beaucoup pratiqué l'apnée. Donc, l'apnée te permet aussi d'améliorer et d'optimiser la capacité de tes muscles, de ton corps à fonctionner de manière anaérobie, c'est-à-dire avec un manque d'oxygène. Et donc, c'est sûr que grâce à ça, ben, j'ai tu peux augmenter tu peux optimiser ton potentiel à fonctionner sous essoufflement ou du moins avec une quantité d'oxygène plus basse que la normale.
Donc, tu penses que ça pourrait potentiellement arriver en trail, cet aspect, ce facteur d'optimisation de la performance? Est-ce que tu penses que
Bien
certains
sûr, mais
pourraient
il y en
commencer à
a
le
qui
mettre
le
en
font,
place?
hein.
Ouais.
Ceux qui optimisent un petit peu et qui ont une certaine sensibilité à l'optimisation du potentiel. Les bons font des exercices d'apnée, c'est certain, ou font des contrôles, prennent consciemment le contrôle sur leur inspiration-expiration lors de leurs entraînements. Et dans les sports d'endurance, on parle de course à pied, de trail là, mais c'est bien valable pour la natation et pour le vélo aussi, hein. Mais oui, c'est clairement, pour moi, c'est clairement voilà, une sphère dans laquelle il y a une marge de progression. Le contrôle de la respiration et l'optimisation de la gestion de tes tensions et pressions d'oxygène et de CO2 dans ton corps.
Ensuite, je voulais qu'on parle un petit peu de ton départ au Canada qui, j'ai l'impression, a changé quand même pas mal de choses dans ta vie et je crois que c'est là d'ailleurs que tu as découvert le trail. Donc là, tu as découvert du trail sur le territoire nord-américain. Qu'est-ce que l'atmosphère nord-américaine et l'état d'esprit nord-américain, ça a développé chez toi?
Alors tout à fait. Canada, on est en février 2014. Donc c'est drôle parce que c'est juste avant, j'avais bossé 6 mois comme moniteur de plongée justement en mer Rouge et bah, je suis passé de pieds nus maillot pendant 6 mois à moins de 30 à Montréal. Donc gros contraste. Et c'est drôle parce que en fait. Pour répondre à ta première question, c'est là que j'ai découvert la course à pied au début en généralet, puisque le trail est arrivé plus tard en 2016. Au début, je courais plutôt que sur la route. Mais finalement, c'est malgré moi que je me suis mis à courir parce que ben, voilà, plongée sous-marine, c'était compliqué. Et puis les autres sports que je pratiquais un peu Genre, kitesurf, tout ça, c'était compliqué à Montréal. Donc, sport de transition, la course à pied pour me remettre en forme parce que j'étais plus trop en santé à ce moment-là. Et bon, mais j'étais loin d'imaginer qu'en allant courir comme ça du jour au lendemain, tout ce que ce sport allait m'apporter aujourd'hui, là, dans la vie. Parce que en 2019, ben, j'ai quitté mon bureau d'ingénieur pour me lancer à fond dans le monde de la course à pied. Et voilà, pour répondre à ta question, je pense que la culture nord-américaine m'y a aidé. On le saura jamais, mais je suis presque convaincu que si j'étais resté en Europe, enfin, ou en France, que j'avais découvert la course à pied et que j'avais progressé jusqu'à un certain potentiel, voilà, qui m'aurait peut-être permis d'essayer de faire quelque chose dans ce sport-là, j'aurais jamais quitté mon bureau d'ingénierie, jamais, jamais, jamais. Impossible. La culture ici en France est beaucoup trop carriériste et trop fermée pour laisser entrevoir ce genre de possibilités-là. À la fois dans le monde professionnel, c'est non. Dans le monde familial, c'est non. Et dans le cercle d'amis, c'est non, tu vois. Tandis que là-bas, au contraire, la réorientation professionnelle, l'alignement de ses valeurs et de ses passions dans le métier, là, ce que tu disais dans la première question, est quelque chose qui est très valorisé. Ils font beaucoup au Québec, en tout cas, ils font beaucoup chaque année des bilans, tu vois, un peu des bilans de compétences, des bilans de passion, des bilans pour essayer de retrouver ce qu'ils appellent ton X, être sur ton X. En gros, pour trouver ton X, c'est un graphique à abscisse et ordonnée avec ce que tu aimes faire et ce que tu es bon à faire, et dans quoi tu es bon, tu vois. Je crois que l'axe horizontal, c'est dans quoi tu es bon, et l'axe vertical, c'est dans quoi tu n'es pas bon. Et puis tu essayes de placer ton X dans ce graphique-là. Et ben, tu te rends compte que parfois, le milieu professionnel dans lequel tu es, tu n'es pas sur ton X. Et donc, la culture, c'est de te dire, change. Voilà. Change, et ce n'est pas grave. Hein. Si tu as fait 5, 6, 7 ans, 8 ans d'études dans un domaine, mais que finalement, tu te rends compte que ce n'est pas ton truc, change. Et c'est encouragé. Et puis moi, en évoluant dans ce milieu-là et en voyant beaucoup de monde autour de moi changer radicalement de carrière, et moi-même, quand j'ai commencé à émettre l'idée de tenter de quelque chose un peu fou, voilà, c'est encouragé, et j'ai moi-même été encouragé. Donc, c'est sûr que je suis parti avec un petit stress, mais j'avais quand même le soutien de la culture qui fait que ça a été plus simple. Voilà.
Du coup, ta présence au plus haut niveau sur Ultra Trail, elle est plutôt récente. Pourtant, moi, j'ai eu l'impression, notamment à l'UTMB, où j'ai pu suivre la tête de course, en te regardant et aussi en t'écoutant hors course, et quand tu, ça soit dans tes interviews, dans tes interviews notamment, on sent que tu as une force assez naturelle. Tout est réfléchi, rodé. Et que, en gros, tu es dans une forme de récitation, quoi, un peu comme un musicien. Et déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et puis, j'aimerais savoir d'où tu tiens cette forme de rigueur et cette autodiscipline en toi.
100% d'accord. Je pense que c'est un petit peu c'est un peu inné là, peut-être de par ma formation d'ingénierie, mais peut-être de la personnalité tout court, de cadrer et d'organiser un petit peu les choses. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que je vais beaucoup. En fait, je vais le faire de manière naturelle, tu vois. C'est sûr que je vais faire des petits tableaux de temps en temps, mais souvent, tout est déjà pré-programmé dans ma tête. Et pour l'exemple de l'UTMB, tu vois, quand je m'inscris à une course, tu vois, je n'attends pas le dernier moment pour commencer à y penser. Ça va commencer peut-être 2, 3, 4 mois à l'avance, ou dans l'ordre des choses, je vais commencer à regarder beaucoup de vidéos YouTube de la course, pour commencer à m'imprégner déjà un petit peu des paysages, des climats. Je regarde un peu les visages des gens, comment ils sont amochés à chaque ravitaillement. Je regarde les ravitaillements, je lis quelques récits de blog de la course qui ne sont pas forcément ceux des élites. Mais comme ça, je commence à déjà, dans ma tête, à dessiner à quoi ressemble la course, ce qui va me permettre de faire ce qu'on appelle de la visualisation. Tu vois, la nuit, je commence à y penser, la journée, cette montée, cette descente, ce ravitaillement. Voilà. Et puis au plus je vais m'approcher de la course, au plus je vais rentrer dans le détail. Là, je vais commencer à regarder les distances entre les ravitaillements, les dénivelés, les degrés de pente, les températures moyennes météorologiques du mois ou de la date où va se faire la course. Ainsi de suite, et ce qui fait que quand je vais arriver à la course, comme tu dis, j'ai plus qu'à réciter une partition, tu vois, que j'aurais apprise sans l'avoir jouée avec l'instrument. Tu vois, j'apprends la partition par cœur, puis après, le jour où je vais à l'audition, j'ai plus qu'à poser mes doigts sur le piano. Et bon, je prends l'exemple du piano parce que j'étais pianiste, mais voilà, j'ai plus qu'à réciter la partition. Et souvent, ce que j'aime faire aussi aujourd'hui, c'est mon mode de vie qui me le permet, puisque je suis plus rattaché à un bureau. Je vais aller sur le terrain 2, 3 semaines, voire un mois à l'avance, et je vais aller repérer la course dans son intégralité. Tu vois, je prends mon temps, je fais des sections de 20-30 km par jour. Et donc, c'est sûr qu'après, je connais mes forces, je sais exactement l'intensité qu'il va falloir mettre dans chacune des zones de la course. Et bon, après, il y a toujours
Incertitude.
quelques embûches et quelques paramètres qu'il faut, le jour de la course, qui font que ça peut ne pas marcher. Mais voilà, j'aligne les étoiles pour que ce ne soit pas de la découverte, mais qu'il n'y ait plus qu'un récital à faire. Et ça, voilà, ça facilite beaucoup les choses et ça réduit aussi la pression mentale et voilà le stress de partir dans l'inconnu. Et pour l'UTMB, voilà, c'était l'exemple, ça a très très bien fonctionné. Même ça a tellement bien fonctionné que là, un petit peu avec le recul que j'en ai aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu aller un petit peu plus vite parce que je suis arrivé trop en forme à l'arrivée, tu vois.
Ouais, bah justement, c'était un peu le. Il y a une petite question par rapport à ça, mais on peut aborder un petit peu justement la partie UTMB. C'est quand même la course qui t'a révélé aux yeux du grand public. Il y a encore peu de monde qui te connaissait à part les spécialistes. Ça a été
En
clairement.
fait, juste pour la petite anecdote, Alexandre, ça aurait dû arriver avant, hein, que je teste. J'ai tellement travaillé fort les années qui ont précédé là, et puis le jour où je suis parti de mon bureau d'ingénierie en 2019, c'était pas pour aller faire des courses à saucisson dans des villages paumés au fin fond de nulle part, tu vois. Sauf que malheureusement, un mois après avoir quitté mon bureau en 2019, je me suis blessé. La seule blessure que j'ai eue dans toute ma carrière de coureur, enfin une vraie blessure, hein, pas la petite inflammation qui permet de continuer à courir, tu vois, une blessure qui m'a mis sur le carreau pendant 3 mois. Ce qui fait que l'année 2019 a été un peu en demi-teinte et je n'ai pas pu exploiter mon potentiel. Et 2020, Covid. Donc voilà, ça a été bien au courant. Et ce qui fait que ma première chance est arrivée en 2021 d'enfin pouvoir un petit peu utiliser, enfin, montrer tout le travail que j'avais fait les mois et les années qui ont précédé ce moment-là.
Ouais, donc ça a expliqué aussi forcément l'émotion à l'arrivée. Et puis c'était entre consécration, soulagement, il
Exact.
doit y avoir un mélange d'émotions assez fort quand même.
Et ça faisait 3 ans que je travaillais vraiment de manière acharnée et que je n'avais pas pu encore remettre ma copie d'examen, tu vois. Mais voilà, il a fallu attendre l'UTMB 2021. Et puis j'ai fait quelques erreurs aussi en 2021, tu vois. Je m'étais aligné sur la Trans-Grande Canaria en février. Et là, j'aurais pu faire quelque chose aussi parce que je m'étais entraîné tout l'hiver comme un dingue. Mais j'ai fait des erreurs de débutant, des excès de confiance par rapport à ma capacité à faire confiance à mon estomac. Mais après, je me dis tant mieux, tant mieux. Voilà, j'ai fait l'erreur sur cette course-là aux Canaries, ce qui m'a permis de ne peut-être pas la faire à l'UTMB. Tu vois, donc
Ça me fait penser à une question. Tu t'es préparé comment t'étais où cet hiver pour préparer la Transdoncanéale, justement?
Alors, la petite histoire, c'est que moi j'habite à Montréal, comme tu le sais. Je devais rentrer à Montréal le 15 décembre 2020, après la diffusion de Koh-Lanta, parce que j'étais rentré de Montréal pour la diffusion de l'émission. Voilà, il fallait être en France, il y avait quelques petits rendez-vous et surtout la finale qui était tournée en direct à Paris où il fallait que je sois présent, donc voilà, j'étais rentré. Sauf que la situation pandémique a fait que certaines restrictions sont devenues un petit peu trop drastiques pour moi au Canada. Et donc, je ne suis pas monté dans mon avion retour.
T'es resté dans le sud de la France.
Je me suis dit, je rentre. Ouais, c'est dans le sud de la France, tout à fait. Et je me suis dit, je rentrerai dans un mois ou deux quand ça ira mieux. Et puis, le ira mieux est arrivé finalement qu'en juillet de cette année. Donc, je ne suis pas du tout rentré. Et donc, je me suis entraîné chez moi, dans le sud de la France, entre le Luberon, le Ventoux, tout ça là.
Ouais.
C'est des terrains qui sont assez secs et assez accidentés, donc parfait pour des courses comme aux Canaries. Voilà, des terrains volcaniques, rocheux, très secs et c'est très similaire, donc c'était juste parfait.
Ben...
Et il n'y a pas 20 cm de neige, il ne fait pas moins de 10, donc
Ouais, c'est clair, c'est clair.
l'hiver, dans le sud de la France, tu peux t'entraîner. Tu sais, limite, les conditions sont meilleures qu'en été chez nous, dans le sud.
Tu disais, là, pour revenir un petit peu sur l'UTMB, tu disais que à la fin, avec le recul, tu penses que tu aurais pu aller plus vite. Est-ce que pendant la course, à un moment, tu as cru à la victoire?
Oui. J'aurais pu aller plus vite, mais c'est dur parce que la limite, elle est tellement, tellement fine
Ouais.
et tellement, c'est tellement fin à trouver de l'intensité à mettre que faut pas non plus vivre avec des regrets. Tu vois, je me dis, je pense que je peux aller plus vite à l'UTMB, mais je regrette pas mon UTMB parce que qui sait, peut-être je serais allé un petit peu plus vite, j'aurais totalement explosé
Ouais,
à
bien sûr,
Champé
bien sûr.
et j'aurais fini zombifié en 30e position. Tu vois, donc voilà, je sais juste que je suis arrivé dans un état de forme tel que c'est clair qu'à un moment donné, j'aurais pu aller plus vite à un endroit pour arriver un peu plus fatigué. Oui, j'ai cru à la victoire parce que ce qui se passait, c'est que dès la Foulie, donc après Grand Col Ferré, on est à peu près à 110 km
Ouais.
au ravitaillement de la Foulie. Mon team manager de Salomon, Greg Bollet, me dit OK, François a vraiment mal aux jambes, il ne fait que se plaindre. Et puis on n'était que au kilomètre, enfin que, entre guillemets, au
Ouais.
kilomètre 110, hein, il en reste encore 60 à faire. Hein. Aurélien, ça va, mais il sourit pas trop. Et Germain, il commence à courir vraiment, c'est pas terrible, quoi, tu vois. Donc là, à Fouli, je me dis, OK, il reste 60 kilos, si moi je garde cette plateforme-là, il y a des chances que je rentre troisième. Et dans ma tête, je me dis, bon, ça reste un ultra, j'ai quand même l'expérience des ultras. Si François, il commence à avoir mal aux jambes maintenant et que Aurélien commence à faire la grimace, ben, tout est possible, tu vois.
Ouais.
Après, sincèrement, je travaille beaucoup le mental et je sais les zones et les discours internes dans lesquels il ne faut pas aller. Et tout de suite, je me suis fermé à ce truc-là, tu vois, pour pas trop faire monter l'euphorie en moi qui après peut me faire faire des erreurs de choix d'intensité. Mais ça a continué derrière parce que je sors de Champé, je suis à 30 minutes d'Aurélien et je remonte sur Aurélien, donc il reste 40 kilos à partir de Champé. Je remonte sur Aurélien jusqu'à 7 minutes, t'imagines? Tu rattrapes 23 minutes en 20 km, c'est énorme. C'est comme si moi je courais et que lui marchait, tu vois. Et puis François, pareil, hein, je suis remonté à peut-être moins de 20 minutes de lui. Donc, je me suis dit, à tout moment, dans tête au vent, à la fin, les gars, ils vont vraiment péter. Hein, et puis, même s'il reste que 10 km à tête au vent, quand tu pètes, que tu te mets à marcher, ben, c'est compliqué. Hein. Mais voilà, les gars, ça reste quand même, François surtout, un gars qui est capable, malgré la douleur, d'aller chercher des ressources. Insoupçonné. Et Aurélien, pareil. Et puis moi, je commençais aussi, à force d'essayer d'aller les chercher, à commettre quelques erreurs. Et voilà, à la fin, j'ai préféré assurer ma troisième position que de tenter le tout pour le tout, me blesser et puis tout perdre, tu vois.
Et en analysant un peu tes chronos là, sur les sections de la course, on a remarqué que, je pense que tu l'as remarqué aussi, tu étais très costaud sur les parties en montée et à l'inverse, sur les parties en descente, tu as eu des chronos moins intéressants par rapport au reste du peloton. Est-ce que c'est un axe de progression pour toi et est-ce que tu penses qu'aller vite dans les descentes sur l'UTMB, ça peut faire la différence pour aller chercher la victoire?
Alors, c'est sympa, c'est cool que tu aies fait l'analyse parce que j'ai la même. C'est la première fois en course que c'est ce scénario-là qui se passe. Habituellement, moi, je suis pas un montagnard, hein, j'habite J'habite à Montréal, c'est tout plat, il n'y a pas de grosse montée, donc je suis plutôt lent en montée et très rapide en descente. Sauf que là, à l'UTMB, disons que ben, les mois qui ont précédé la course, j'ai vécu dans les Alpes, voilà, et j'ai vraiment axé mes entraînements sur ça. Je pense que j'ai pas fait un seul, peut-être un ou deux sur 6 mois, intervalle, entraînement d'intervalle à plat, ce que je faisais 2 fois par semaine au Canada. Je faisais tous mes entraînements d'intervalle en montée. Je travaillais avec des bâtons aussi, ce que j'avais jamais fait avant. Je travaillais avec un gilet lesté. Voilà, j'ai vraiment travaillé fort là-dessus et donc j'ai un peu laissé de côté les descentes. Et pendant la course aussi, je sais que quand on fait un peu le fou en descente, on peut le payer très cher au niveau des quads là, on peut le payer très cher. Donc, on ne peut pas dire que j'ai descendu lentement non plus là, mais disons que je me gardais une petite gêne en descente par rapport à ce que je fais d'habitude pour être sûr de rester fort jusqu'au bout. Voilà. C'est toujours pareil, les descentes, le truc, c'est que tu n'as pas l'aspect cardiovasculaire qui rentre en jeu. C'est juste à toi de décider dans ta tête, ben, est-ce que tu vas à fond ou est-ce que tu vas plus lentement? C'est juste musculaire, tu vois, et c'est dur de savoir où tu te situes musculairement pour faire le fou, enfin, pour être un peu plus en contrôle en descente. Et j'ai préféré prendre l'option d'y aller un petit peu plus sécuritaire, on va dire, pour être fort jusqu'au bout. Après, je te dirais quand même que cette analyse sur les 3 dernières descentes, là, à partir de Champé, je suis beaucoup plus vite que François, Aurélien et Germain. Hein. Je leur prends 5 minutes par descente, hein. C'est monstrueux. Voilà. Parce que peut-être eux sont allés trop vite dans les descentes de Courmayeur et de Grand Col Ferret.
J'imagine qu'après cette. Tu disais déjà un petit peu que tu étais quand même assez sûr de toi sur tes capacités à pouvoir réaliser une grosse course. J'imagine que c'est la différence, il y a une différence quand même quand tu réalises justement la performance. Est-ce que ça décuplait la confiance en toi et la certitude que dans le trail, tu pouvais faire de grandes choses dans le futur?
Oui, 100%. Je dis souvent, et puis maintenant, je vais le dire un petit peu moins. Tu vois, moi, quand je me retrouve avec un dossard élite sur l'UTMB ou même sur une autre course, eh, ben, souvent, on m'offre la possibilité de me retrouver sur, tu vois, sur la ligne de départ, sur le front, quoi, enfin, tout devant. Et souvent, ben, tu sais, je regardais autour de moi tous ces gars-là. Ils ont tous été remportés ou du moins fait un podium sur une vraie course internationale et ce qui n'était pas mon cas. Tu vois, j'avais quand même gagné, fait des beaux podiums sur de belles courses, mais pas sur des courses de type UTMB. Et donc, je me sentais toujours un petit peu gêné. Tu sais, je m'arrivais de dire que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Et même ce que je me rendais compte aussi, c'est que ben, tous les coureurs élites devant se connaissent, tu vois, parce que l'un ou l'autre a gagné une course, donc ils se connaissent et puis ils ont un certain respect mutuel des uns des autres. Puis moi, souvent, en fait, tu vois, quand les pros, ils me regardaient, je voyais dans leurs yeux qu'ils se disaient, c'est qui? C'est qui ce gars, tu vois? Et donc, souvent, ben, quand j'étais sur une ligne de départ, comme à l'UTMB, ben, j'évite de croiser les yeux des gars parce que je sais que quand dans leurs yeux, je vais voir qu'ils se demandent qui je suis, ben, ça me stresse, tu vois,
D'accord.
et ça me gêne. Et je préfère regarder par terre, tu vois, ou au loin. Et grâce à cet UTMB, je pense qu'à l'avenir, j'arriverai un peu plus confiant. Et ça m'enlèvera un gros poids et un certain niveau de stress que ça me crée le fait de me retrouver là sans que personne me connaisse. Et voilà, c'est positif pour moi parce que voilà, ça me mettait quand même une charge et une pression mentale, une petite gêne qui n'était pas forcément positive pour moi, qui était limite un petit peu délétère à être dans les meilleures conditions au moment où le gong de départ retentit. Voilà. Donc, ouais, pour répondre à ta question, c'est encore frais, hein. On parle d'une course d'il y a moins de 2 mois en arrière. Mais j'ai la sensation, je ressens que je serai plus confiant à l'avenir et j'aurai un niveau de stress plus bas par rapport au fait que je mérite le fait d'être sur cette ligne de départ devant avec les autres coureurs de très haut niveau.
Et après tout ce qu'on vient de dire, du coup, revenir un jour sur l'UTMB et essayer de vraiment là avec l'optique d'être devant et de jouer la gagne, est-ce que tu vas revenir justement à l'UTMB?
Rendez-vous en 2022, dès l'année prochaine.
Parfait, j'en veux pas plus, voilà. Ça me va.
J'ai quelques infos et bruits de couloir qui me disent que, tu sais, moi actuellement, il y en a trois vraiment qui me font peur hein, pour l'UTMB devant là. C'est François, Kylian et Pau Capel.
Ouais.
François et Kylian ne seront pas là en 2022 et Pau, j'ai l'impression que s'il continue à gérer une saison de course.
Comme il le fait, ça va être compliqué.
Voilà, en faisant un ultra tous les deux jours, je ne suis pas sûr que c'est très durable, tu vois. Donc, ouais. On voit qu'il s'est blessé, qu'il est en train de payer un petit peu les 2-3 dernières années où il a fait vraiment, il a exagéré avec les courses qu'il a fait. Donc, je ne suis pas sûr que, bon, j'espère du positif pour lui, mais je ne suis pas sûr qu'il arrive à son meilleur niveau à l'UTMB 2022 s'il continue à faire des courses tous les week-ends aux quatre coins du monde. Bon.
Ouais.
Ce qui fait que la porte s'ouvre à d'autres coureurs qui sont habituellement un peu plus derrière. Voilà.
Mais remporter un UTMB sans les gros monstres de la course, pour toi, ça aurait la même signification ou...
Bah, bien sûr. Enfin, tu gagnes un UTMB, c'est gagner un UTMB. Hein. Okay. Peu importe. Ouais. Voilà, hein, c'est... Après, il faut regarder les temps aussi. Hein. Moi, cette année, j'ai mis du temps à prendre conscience de ça. Parce que souvent, voilà, encore une fois, mon syndrome de l'imposteur, hein, je me disais, tu vois, l'UTMB 2018, j'arrive 13e. Ça faisait à peine un an que je faisais de l'ultra trail. Tu vois, j'avais à peine commencé ce sport-là. J'arrive dans le top 15. Et puis, je me dis, mais j'ai fait cette position-là. Parce que cette année-là, il avait fait pas beau et que les trois quarts des élites avaient abandonné, tu vois.
Ouais.
Et cette année, en 2021, je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, je suis arrivé troisième, mais c'est sûr, Jim Wamsley a abandonné, Pablo Villa a abandonné, Dimitri Mitraïev a abandonné, tout le monde a abandonné. Sauf qu'après, mon manager, il m'a dit, mais Matt, ok, mais est-ce que tu as vu le temps que tu as fait?
Ouais.
Voilà, donc un UTMB à moins de 21h15, c'est le temps que fait Xavier Thévenard quand il gagne l'UTMB à chaque fois, tu vois. Donc,
exactement, ouais. Moment, ouais.
Faut regarder aussi le temps. S'il n'y a pas de Pau, de François et de Kylian l'année prochaine, mais que tu gagnes ton UTMB en dessous de 21h, c'est quand même le temps montre que tu es quand même allé vite et que tu vas à la vitesse. D'un François qui gagne l'UTMB en 20h50, tu vois, même s'il n'est pas là.
Tout à fait.
Donc, il faut regarder les autres, mais il faut regarder aussi le temps que tu fais sur la course, les temps de référence. Sachant que le record de parcours, sur le vrai parcours, hein, pas celui qui est coupé, c'est 21h17. C'est pour Capel qu'il a fait en 2019. Et donc, pour moi, sur un UTMB, quand tu es à moins d'une heure, du record de parcours, là, ça fait 10 heures, ça fait 1 heure, ça fait 10%, 20 heures, ça fait 5%. Tu es à moins de 5% du record. Donc, tu es vraiment à un cheveu de ces gars-là, en fait, hein, quand tu regardes de manière statistique.
Bah justement, on va parler un petit peu du MDS, du Marathon des Sables. Pourquoi avoir fait le choix d'enchaîner avec le Marathon des Sables? Est-ce que tu étais encore dans l'euphorie dans l'euphorie du TMB, tu te sentais bien, donc tu voulais enchaîner. Pourquoi avoir décidé de parce qu'on rappelle quand même que c'est un gros morceau, le MDL. Ouais. Donc, pourquoi avoir décidé d'enchaîner?
Alors, le MDS, tu sais, dans… T'es ultra trailer, Alexandre?
Non.
Non, tu fais du trail quand même un petit peu.
Ouais, je fais du trail, okay. Court jusqu'au marathon.
Ok, j'imagine que tu as toujours en tête, dans ta tête ou sur un bout de papier, une liste de courses que tu aimerais faire dans ta vie, tu vois, une genre de…
Ouais.
On dit une bucket list au Canada, là. Mais en gros, pour les ultra-trailers, tu sais, on a beaucoup de courses qui… À cocher, tu vois, c'est parce que ça nourrit un peu notre imaginaire collectif. Et dans le monde de l'ultra trail, le marathon des sables est quand même souvent en haut de la liste, tu vois. C'est une course à faire au moins une fois dans sa vie. Ouais. Et moi, ça fait longtemps que je voulais le faire, ce MDS. Sauf que habituellement, le marathon des sables tombe en avril de chaque année. Et c'est un peu embêtant que ça tombe en avril parce que ça te, pour moi, préparer, faire et récupérer un marathon des sables en avril, ça te tue une saison. Enfin, une saison de course plus classique, hein, je dirais, tu vois, dans les montagnes avec dénivelé ou en alpin, tout ça. MDS, c'est vraiment une course que 3 mois avant, tu dois faire que du plat, dans le chaud, tu vas là-bas, ça te fatigue beaucoup et tu mets 1 mois à t'en remettre. Donc voilà, tu grilles 4 mois, minimum 4 mois pour cette course-là. Et ben, limite, quand tu décides de faire le marathon des sables en avril, bon, je parle pour à haut niveau, hein, ben, il n'y a que ça dans l'année, à moins que tu veuilles aller faire d'autres courses qui ressembleraient au marathon des sables dans d'autres déserts, je ne sais pas où dans le monde. Mais sinon, tu fais un marathon des sables, c'est sûr que derrière, si tu vas faire une Navarredo, un marathon du Mont Blanc ou un UTMB, ça ne marchera pas, quoi, c'est certain.
Ouais.
Et ben, cette année, le marathon des sables tombait en octobre. Voilà. Donc, moi, je t'avoue que ça a commencé très tôt, bien avant l'UTMB. J'ai pris la décision de le faire. C'était en mai, début mai. Je me souviens, j'étais en Polynésie à ce moment-là quand je discutais avec la personne qui gérait le marathon des sables. J'ai pris la décision début mai de m'y inscrire. Donc, ça remonte longtemps. Et puis, tu sais, quand tu es en début d'année, ben, parfois, tu t'inscris et puis tu acceptes des courses de fin d'année. Sans vraiment calculer précisément les écarts qu'il y a entre les courses en termes de temps et sans vraiment calculer est-ce que tu vas être en forme après l'UTMB, pas en forme, est-ce que tu vas te donner, pas te donner, tu vois, c'est tellement loin que tu t'inscris puis tu dis on verra plus tard. Et voilà, donc je me suis retrouvé au Marathon des Sables plus pour par rapport à une organisation de calendrier qui était plus adaptée à ma saison. Après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, tu vois. Je suis sorti de l'UTMB pas trop amoché. Et puis, je te dirais qu'une semaine après, ça allait vraiment bien. Mais je ne le recommanderais pas. C'est trop proche. C'est trop proche. Et un marathon des sables, il faut vraiment faire du spécifique juste avant pour s'y préparer. Moi, je suis arrivé, je n'avais pas trop les adaptations chaleur et capacité à courir longtemps à plat. Et voilà, j'ai quand même... ouais, ça difficile. Voilà.
Donc, et du coup, tu l'as pris une fois que tu avais le dossard sur toi, tu l'as pris vraiment en mode découverte, c'est une course que j'ai envie de faire et de terminer, ou tu avais quand même au fond de toi un objectif de performance?
Alors, il y avait deux possibilités avant de commencer. C'était est-ce que je me mets dans une optique de performance ou est-ce que j'y vais pour le finir? Parce que le marathon des sables, tu sais, c'est le genre de course que... la finir est un graal aussi. Hein. C'est un peu comme une Barclay, par exemple. On s'en fout un peu du classement. C'est être finisher de cette course, t'es content, tu vois. Sauf que ben, moi, rendu où je suis dans ma vie, là, actuellement, je suis quand même plus porté sur la performance qu'être finisher. Sauf que j'avais aucune idée de mon niveau de performance et de récupération post-UTMB parce qu'après l'UTMB, je me suis reposé 2 semaines. J'ai fait un petit bloc d'entraînement d'une semaine. J'étais rentré au Canada, mais sans trop pousser parce que je ne voulais pas créer de la surfatigue. Tu vois, je voulais plutôt jouer la carte de la fraîcheur au MDS. Donc, je n'ai pas pu ressentir vraiment mes sensations physiologiques et cardiovasculaires pour me dire est-ce que tu es en pleine forme ou pas. Ce qui fait que pour ne pas me stresser, je me suis dit « Ok, Matt, tu vas aller au MDS. » Tu vas faire la première étape à fond. Enfin, à fond, tu vas te donner, tu vois. Tu vas courir avec les Marocains. Ouais. Si vraiment tu as des bonnes sensations, que ça va bien, ben, on va continuer dans cette optique-là et puis on va y aller pour la performance. Et si à cette première étape, ça ne va pas, et que vraiment, au bout de 5 km, tu n'as pas les jambes et tu ne te sens pas bien, ben, on ira en mode un peu plus tourisme, entre guillemets, puis juste être finisher. Et donc, pour être plus précis dans ma réponse, à la première étape, ça s'est super bien passé. Tu vois, j'ai couru avec les Marocains jusqu'aux 3/4 de la course. Bon, après, ils ont commencé à un peu faire leur accélération de fin de course classique. Donc, je les ai laissés aller parce que ça ne m'intéressait pas. Mais donc, je me suis mis dans une optique, OK, j'arrive proche d'eux, il y a une possibilité que je fasse un top 10 à cette course. Donc, je suis parti dans cette optique-là, mais sur la suite de la course.
Ça, c'est quelque chose que tu as du mal à. Parce que parfois, quand on est souvent dans la compétition et qu'on joue devant, j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à se détacher de ça. Et je remarque la même chose là, du coup, sur le MDS. À aucun moment, tu t'es dit, juste, je vais vivre la course en profitant au maximum du fait d'être sur place, du fait de participer à une course qui me fait rêver, sans avoir cette petite cloche qui te dit, ah ben non, en fait, faut courir, faut jouer devant, faut se batailler.
Ben en fait, c'est peut-être le regard qu'ont des coureurs et des coureuses un peu plus récréatifs et récréatifs de se dire, OK, les élites devant, ils s'arrachent, ils ne voient rien, ils souffrent, mais pas forcément, hein, c'est pas une relation malsaine avec la compétition. Hein, moi, je parle pour moi, là, je prends énormément de plaisir, c'est une forme de plaisir aussi de m'arracher. Tu
Bien sûr.
vois, de m'arracher devant, c'est aussi une forme de plaisir. Je souffre pas de faire ça et c'est pas une relation malsaine avec mon sport que d'appréhender les courses sous cet angle-là, tu vois. Et c'est pas parce qu'on est à fond aussi qu'on est tout le temps à fond à avoir les yeux par terre et à pas voir ce qui se passe sur le côté. Non, au contraire, des fois, voilà, t'es quand même un niveau de forme qui te permet de temps en temps de relâcher un petit peu l'accélérateur tout en gardant la distance sur les poursuivants et qui te permet de profiter du paysage autour. Voilà. Après, moi, personnellement, je suis vraiment pas le genre d'athlète qui va abandonner parce que ça marche pas, tu vois. Beaucoup font ça et tu le vois à l'UTMB, hein, tous les élites là, quand ils arrivent au Contamine, au kilomètre 30, s'ils sont pas dans le coup, ils vont abandonner. Je ne parle pas pour tout le monde, hein, mais tu regardes quand même, chaque année, c'est une majorité. Ils préfèrent, alors je ne sais pas si c'est une question d'ego ou parce que les sponsors, ils leur mettent la pression ou par rapport à leur poids-ytra, j'en sais rien quelle est la raison, mais ils préfèrent abandonner que d'être finisher de la course en 30e position, tu vois. Et moi, ce n'est pas mon truc, tu vois. Tout le temps, même si ça se passe mal, je vais avoir cette capacité dans ma tête à switcher, à changer complètement mon objectif pour rentrer dans une autre dimension et une autre dynamique, une autre motivation qui va me faire aller au bout en profitant de la course différemment plutôt que d'abandon. Et l'exemple illustratif, c'est passé au marathon des sables. Les trois premières étapes se sont super bien passées. Tu vois, mon objectif, c'était d'arriver au départ de la quatrième étape. Donc, les trois premières étapes, c'est entre 30 et 40 km par jour. Et la quatrième étape, c'est une longue, c'est 80 km. Et moi, je sais que de par l'entraînement que j'avais une carte à jouer sur la longue. Donc, je me suis dit, Mathieu, tu cours avec les Marocains, tu les gardes un petit peu avec toi sans trop t'arracher, mais essaye de ne pas être à plus de 10 minutes du premier à la fin de la troisième étape. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Pour être prêt à la longue étape, parce que sur une longue étape, tu peux gagner très vite 1 heure, 2 heures, 3 heures, hein, sur quelqu'un qui craque. Sauf que malheureusement, le destin a fait que je suis tombé malade dans la nuit de la troisième à la quatrième étape. Il y avait cette année un virus qui tournait sur le camp du Marathon des Sables, là, donc tout le staff est tombé malade, enfin une bonne partie, et puis les coureurs. Et moi, malheureusement, ça m'est tombé dessus la veille de la longue. Donc j'ai pris le départ de la longue, mais bon, je te laisse imaginer le carnage quand tu as une gastro, hein, que tu t'arrêtes pour te vider de tous les bords toutes les 10 minutes, c'est abominable. Et là, arrivé au deuxième ravitaillement, là où beaucoup d'athlètes élites auront abandonné en se disant, ben non, je perds mon top 10, ça sert à rien, j'arrête. Je me suis posé, je me suis couché par terre, et là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, Matt, laisse tomber ton objectif de performance. Et go, va être finisher du marathon de sable. Ça va être long aujourd'hui parce que tu es malade, mais vas-y. Et à partir du moment où j'ai eu ce discours-là interne, que je l'ai accepté et que j'ai signé ce contrat-là avec moi-même, je me suis levé, j'ai bu un coup et je me suis mis à marcher à plat, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, de toute ma carrière. Je n'avais jamais marché à plat. J'avais marché en montée, tu vois, mais à plat, jamais, jamais, jamais. Et je me disais, ben voilà, tu apprends quelque chose de nouveau aujourd'hui, tu souffres, mais là, tu vas aller au bout et être finisher de ce truc-là.
Ouais, ben justement, c'était une de mes questions. Quelle était ta volonté par rapport à ça, de te détacher de cette partie Koh-Lanta où finalement, alors qui t'a permis d'exister sur les réseaux, mais qui, je ne sais pas ce que tu retires de l'expérience de Koh-Lanta, mais en soi, toi, tu n'y es pas resté extrêmement longtemps. Aux yeux du grand public, tu as quand même apparu comme un sportif intéressant, mais voilà, ce qui te reflète vraiment, c'est la partie trail. Donc voilà, est-ce que tu as envie petit à petit de t'en détacher ou quand même garder toujours un peu cette partie-là de Mathieu Koh-Lanta pour faire un peu parler de toi?
Avant l'UTMB,
Ouais.
c'était Mathieu de Koh-Lanta qui fait du trail, et maintenant c'est Mathieu le trailer qui a fait Koh-Lanta. Tu vois la nuance?
Ouais.
Comme si j'étais plus connu avant pour avoir fait Koh-Lanta plus que ma véritable passion qui est le trail, et maintenant c'est le contraire, tu vois, c'est plus Mathieu Blanchard. Tu vois, même avant, tu tapes sur Google, sur les médias, tout ça, tu vas avoir beaucoup plus d'articles de Mathieu Koh-Lanta. Maintenant, c'est Mathieu Blanchard, tu vois. Et moi,
Ouais, ouais,
ça valorise beaucoup plus mon travail, et je suis plus en accord avec moi-même comme ça qu'avant l'UTMB. Je préfère cette position-là. Et d'ailleurs, sur les réseaux, probablement en décembre de cette année, je vais revenir sur mon vrai nom d'origine. L'idée, c'est de m'en détacher à 100%. Alors, il faut savoir, dans le backstage, c'est que quand tu participes à l'émission, pendant la diffusion, tu as un peu disons, une obligation sous forme contractuelle de dédier un petit peu ta vie,
Ouais.
le temps de la diffusion et des mois qui suivent, à l'émission. Voilà, tu n'as pas le droit de refuser. On a des rendez-vous médias pratiquement tous les jours pour faire des débriefings d'épisodes, des rendez-vous à droite à gauche organisés par la prod. Et donc, tu as un genre d'obligation d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé d'avoir un seul compte, mais d'avoir une présence sous la casquette Koh-Lanta. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que les candidats vont rester sous ce nom-là, parce que c'est sûr que ça apporte beaucoup d'opportunités, du moins pendant la diffusion et puis les 6 mois qui suivent. Après, ça disparaît. Voilà. Certains gardent ce nom-là parce qu'ils se disent que peut-être un jour la lumière leur reviendra dessus. Mais bon, ça arrive très peu, tu vois. Moi, c'est sûr que ben, c'est assez frais. Hein. C'est l'année dernière que j'ai fait ça, là. On est en septembre, là. Il y a un an en arrière, j'étais en plein dans la diffusion. Et là, actuellement, j'ai aussi ma copine Alix qui est dans le compte actuel, qui est en diffusion actuelle. Ce qui fait qu'il y a aussi, en plus de mon entité personnelle, aussi une entité de couple qui fait qu'il y a une présence sur les réseaux, ou une présence média de l'entité Mathieu plus Alix. Raison pour laquelle je laisse encore un petit peu le nom, mon nom lié à cette aventure, le temps de la diffusion du Koh-Lanta actuel. Et ce que je, ce que je, pour répondre aussi à ta question, tu disais par rapport à l'UTMB, un peu la présence sur les réseaux, tout ça.
Ouais.
Moi, après l'UTMB, tu sais, j'ai eu un rendez-vous ben, chez Salomon, hein, au siège avec Greg Voulet, qui est le manager du team international. Greg m'a proposé de rentrer dans le team international de Salomon. Voilà, c'est pour moi, même je pense pour beaucoup de trailers, c'est le Graal de tous les teams de trail.
Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, cette entrée dans le team international, est-ce que elle te permet, si tu le souhaitais, de faire que du trail en tant que coureur?
Oui, 100%. Oui,
Ok.
100%, bien sûr. Ouais, je disais, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup dans le monde du trail de team qui te permettent d'exercer ce sport de manière 100%, faire que ça, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir ben, Salomon, évidemment, peut-être Adidas, leur team T-Rex, The North Face et Oka, voilà.
Ouais. Mais bon, ouais, encore une fois, comme tu disais en tout début, ça reste des rémunérations très variables. et souvent, souvent qui te permettent de juste vivre, quoi. Donc,
Ouais, ça dépend. Hein. Enfin, ben, je te dirai pas un petit peu les rémunérations où sont dans le team international, mais enfin, tu gagnes beaucoup plus que si tu étais ingénieur.
D'accord.
C'est quand même, c'est quand même de très très gros montants là. Hein. Surtout que c'est en général qu'il n'y a pas que Salomon. Quand tu rentres dans un team pro d'une marque, en général, tu as d'autres sponsors secondaires qui t'accompagnent, et en cumulé sur une année, c'est un très gros montant. Hein.
Ok. Ouais, donc vous devez pas être très nombreux alors sur ces montants-là.
Ben, le team international, c'est 10 gars et 10 filles, donc une vingtaine de personnes. Là.
D'accord, ouais, quand même. Ok. Tant mieux, cool.
Ben ouais, c'est un rêve pour moi. Tu vois, jamais j'aurais pu imaginer de me retrouver dans un team avec Kylian, François, Stian et Courtney de Walter. Tu vois,
Ouais.
c'est quand même quelque chose que oui, je savais que je voulais optimiser mon potentiel le plus loin possible, mais de là à atteindre. De pouvoir faire toc 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 à la porte de ce team, tu vois, jamais j'aurais pu imaginer la tête. C'est magnifique, je vis sur un nuage depuis ce TMB.
Okay. Et juste, c'est sur des il y a une forme de pérennité qui s'installe sous forme de, que ce soit un contrat sur plusieurs années ou comment ça se passe?
Ouais, ben, je sais pas comment ça se passe chez les autres, mais chez Salomon, c'est un contrat de 3 ans parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que quand tu signes un contrat de 1 an, ça stressait trop les athlètes. Parce qu'à la moindre blessure, ils vont se dire, merde, je suis blessé, faut vite que je revienne, faut que j'accélère, faut que je me remette en compétition parce que sinon, à la fin de l'année, je vais pas être renouvelé. Et ça mettait une certaine pression sur les athlètes qui fait que c'était pas sain pour eux. Et c'était des surblessures sur la blessure. Et le fait de signer un contrat de 3 ans, ben, ça te rassure un petit peu dans l'idée où si tu as un petit couac ou une petite blessure dans ta saison, ben, c'est pas grave. Tu vois, tu prends-toi quelques semaines, quelques mois pour te réparer et puis revenir en santé et pas essayer d'accélérer les choses pour empirer des petits troubles. Voilà.
Okay.
Donc, c'est pas si précaire que ça.
Bah moi, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, une chose que tu aimerais mettre en avant en lien avec l'interview ou pas, tu me dis.
Voilà, moi, c'est ben, pour conclure, tu sais, je me sens encore, comment dire, tout est allé très vite, tu vois. J'ai comme un peu l'impression de ne pas avoir le contrôle, vraiment le contrôle sur tout ce qui m'arrive, les belles opportunités, tout ça, ce qui fait que, en fait, non, c'est pas ça, c'est que comme tout allait très vite, tout arrive très vite en termes d'opportunités. Tu vois, je me fais inviter à des courses aux quatre coins du monde en permanence. J'ai des propositions de partenariat, de collaboration, de sponsoring non-stop. Et ce qui fait que ben, j'ai vraiment du mal à gérer tout ça en ce moment. C'est pas facile. Mais je pense que l'opportunité de rentrer dans le team international va m'aider aussi à un peu reprendre le contrôle sur toutes ces opportunités-là et sur certains curseurs sur lesquels j'ai pas encore joué, parce que eux, ça reste quand même des experts. Il y a toute une équipe, hein, il y a pas que le team manager, il y a des professionnels de la santé, il y a des gestionnaires de réseaux sociaux, de carrière qui font que, tu vois, quand tu viens mettre un peu de soutien, de support et de structure dans ce sport qui paraît très simple et très banal, hein, qui est de mettre une basket, des baskets de trail et d'aller courir. Mais ça peut quand même être beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine dans le backstage. Mais ça va être que du positif pour la suite. Et j'ai vraiment hâte et je suis très excité de voir ce qui va se passer dans les 3 années à venir, là.
Oh cool. Bah, merci beaucoup Mathieu pour ton temps et c'était hyper intéressant. Donc merci d'avoir pris le temps de répondre et
Passe une belle journée, Alexandre, et n'hésite pas si tu avais d'autres petits points que tu voulais préciser à me faire un petit message ou un petit call de
ouais.
5 minutes, je pourrais le temps de te répondre.
Top, merci beaucoup.
Allez, belle
Allez,
journée.
salut, bonne journée, ciao.